بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم بشح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité, après ce mois mubarak, ce mois béni de Ramadan, de reprendre le cours de tafsir. Et nous avions terminé, pendant le mois de Sha'ban, le tafsir de Suratul Buruj. Et donc, Inch'Allah Azza wa Jal, nous commençons notre surah qui commence par une description de l'au-delà. Alors que dans le Suratul Buruj, on parlait au début également, tout d'abord des sifas, des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parlait de quelques descriptions de l'au-delà, et puis le contenu essentiel du Suratul Buruj, hein, c'était la situation des oppresseurs et la situation des personnes qui ont été oppressées parmi ceux qui avaient la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah de leur cœur, et la récompense qu'Allah Azza wa Jal a prévue pour les personnes qui sont restées fermes dans son obéissance. Dans Wassama et Wattariq, Allah subhanahu wa ta'ala donne une description de la résurrection. Allah Azza wa Jal donne une description du qiyama, de l'au-delà. Et dans les versets qu'on a cités, il y a deux éléments. Dans le verset qu'on a cité, il y a deux éléments essentiels que tout être humain connaît, parce que tout le monde le voit. Et ces deux éléments-là vont obéir à Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon spécifique le jour des comptes. Il y a ces deux éléments normalement sont régis par des lois physiques qu'Allah Azza wa Jal a fixées pour le fonctionnement de ce dunya. Mais le jour des comptes, Allah subhanahu wa ta'ala va fixer d'autres lois, d'autres modes de fonctionnement qui fait que ces deux éléments-là seront certes présents, ce seront les mêmes, mais ils auront un fonctionnement totalement différent. Ces deux éléments sont la terre et le ciel. Dans le verset qu'on a cité, on va rappelez la traduction rapide, la traduction, hein, Ida sama un shaqqat, quand le ciel se déchirera. Donc c'est au futur. On parle du jour de Qiyam. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, et obéira à son Seigneur, wa huqqat, et fera ce qu'il doit faire. Et que la terre, wa idal ardu muddat, et que la terre sera nivelée. Donc le deuxième élément, c'est la terre. Le ciel, la terre auront un rôle spécial, spécifique, le jour de Qiyam. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Là, on parle maintenant du rôle de la terre. La terre sera, ça on a dit tout à l'heure, sera nivelée et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, c'est-à-dire les morts, et se videra. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Et là aussi, Allah Azza wa Jal rappelle que la terre va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nouvelle mission. La terre va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nouvelle mission qu'Allah ta'ala lui a ordonnée. Et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire le même verset qui a été cité pour le ciel. On va voir dans les commentaires. Et enfin pour le cours de ce soir, Allah Azza wa Jal rappelle à l'être humain le retour auprès d'Allah. Et le rappel est général pour musulmans et non-musulmans. Ya ayyuhal insan, ô être humain, ô homme. إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِهِ. Toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Et après ces six versets, Allah subhanahu wa ta'ala va donner une description, on s'en verra la prochaine fois inshallah, une description d'une étape importante et essentielle de l'au-delà. La première étape, une des premières étapes, on va dire, qui va distinguer les gens qui étaient dans le droit chemin des personnes qui étaient dans le mauvais chemin. Et cette étape, c'est la remise des délivré du compte. Parce qu'après, il y a le verset, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ, hein, la personne qui va recevoir son livre de compte dans la main droite, quelle sera sa situation, quelle sera sa joie, description de l'état de grâce de cette personne le jour de la résurrection, et la personne qui va recevoir par opposition son livre de compte derrière son dos, qu'Allah nous protège, nasallallahu alayhi wa sallam, wa al-afiyah, quelle sera sa situation, quelle sera l'humiliation pour cette personne, et quelles seront donc les conséquences. Et enfin, Allah Azza wa Jal, enfin, à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala décrit quelle était la situation de cette personne dans le dunya. La personne est toujours sur terre, mais c'est la terre de l'au-delà. La personne et ses pieds touchent le sol, parce que c'est la même terre, le dunya où on est, c'est la même terre qui sera, on pourrait dire en guillemets, utilisée le jour des comptes, mais cette terre-là obéira à d'autres lois physiques. Plutôt que de dire des lois physiques, des lois divines plutôt. Elle obéira à la loi divine, la loi qu'Allah lui a imposée le jour des comptes. Parce qu'elle va changer son tabi'a, sa forme va changer, sa conception, sa consistance va changer. La terre, le jour des comptes. Et donc, l'être humain, le jour des comptes, et ses pieds sont sur la terre. Et le verset qu'on va voir par la suite, hein, c'est que quand l'être humain est ressuscité, l'être humain est sans vêtements, sans chaussures. Donc ses pieds touchent le sol. Et ce même dunya, ce même sol qu'il foulait de ce dunya, c'est ce sol qu'il foulera dans l'au-delà. Mais Allah Azza wa Jal décrit dans le verset 12, 11, un peu plus, 14, 12, 13, 14, voilà, hein, comment était sa situation dans l'au-delà. Comment cette personne était rafil. Cette personne faisait preuve d'insouciance et ne pensait pas au moment où il allait un jour retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a d'autres étapes dans ce verset. Alors, on va revenir au début donc. Il a sama un shaqqat, quand le ciel se déchirera. Les mufassirin, rahimahullah, disent que in shaqqat ay in fatahat wan farajat. C'est-à-dire le jour de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, Allah ta'ala ordonnera au ciel de se fendre en deux. Et ça rejoint d'autres versets, « وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِّجَتْ » d'autres versets de Sourate al-Mursalat, également ce verset un peu plus connu de Sourate al-Rahman, « فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ » lorsque le ciel va s'ouvrir, s'entrouvrir, se fendre. « فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانَ » et en ce jour, le ciel aura une couleur rougeâtre. Donc ça, ce sera le ciel, le jour des comptes. Dans ce dunya, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au ciel de garder une forme, une certaine apparence, mais le jour des comptes, Allah azza wa jal va ordonner. On va voir ça à travers le verset suivant. وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ et obéira. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا et va obéir à son Seigneur, وَحُقَّتْ et fera ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que le ciel va obéir à l'ordre d'Allah Azza wa Jal et l'ordre d'Allah le jour de Qiyamah, à l'attention du ciel, ce sera qu'il se fend en deux et qu'il prenne cette apparence qui fera peur aux personnes le jour des comptes. Hey, façon dit idan fanchiqaquha yawm al-qiyamah. Donc ça se passera le jour des comptes et l'ordre d'Allah Azza wa Jal istama'at wa ata'at amri rabbiha. Le ciel obéira et mettra en exécution l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala an tanshaqqa. Qu'Allah lui ordonnera de se fendre et de s'ouvrir. Et les mufassirin disent à la suite de ce commentaire, alors que dans ce dunya, le ciel est une des créations les plus solides et les plus complexes. Comme Allah dit au Coran, la khalqu as-samawati wal ardi akbar min khalqi an-nas. La création des cieux et de la terre, hein, c'est plus important ça que la création de l'homme, c'est plus complexe. On avait expliqué une fois dans l'analyse, hein, méditer sur la grandeur d'Allah à travers les créatures, à travers sa création, on a vu la complexité du corps humain, les globules rouges, les globules blancs, le système immunitaire, subhanallah, les organes, on a vu qu'il y a un système, subhanallah, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand on médite sur la perfection qu'il y a dans ce fonctionnement du corps humain, le métabolisme, la cicatrisation, la régénération des cellules, subhanallah, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui aurait pu créer. Aucun être humain, na'oudhu billah, ne pourrait arriver, subhanallah, à la cheville de la création d'Allah Azza wa Jal. Mais malgré qu'on reste admiratif devant la création d'Allah, à travers notre corps, l'analyse du fonctionnement de notre corps, mais Allah nous rappelle que ce qu'il a créé, ce dunya, et la création des cieux, c'est quelque chose d'encore plus complexe, qui prouve encore plus la grandeur d'Allah et la perfection de la création d'Allah et qui prouve l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala décrit ce ciel, ces sept cieux sab'an shidad, comme étant des cieux vraiment, c'est solide. Wassama'a banaynaha bi'aid, ay bi'quwa. Hein, qu'Allah ta'ala dit que ce ciel est quelque chose de solide. Maintenant, ce ciel qui est solide et qui reste ferme, ciel qui, entre parenthèses, hein, dont l'existence n'a toujours pas été découvert par les scientifiques. Ils ont encore des découvertes à faire sur le corps humain, sur les choses qui nous entourent. Jour après jour, on entend que telle équipe d'expédition est partie sur telle île ou dans telle région du monde. Ils ont découvert des espèces animales, des poissons, des insectes, hein, des volatiles, des oiseaux qu'ils ne soupçonnaient pas l'existence. Et dans certains magazines, on dit qu'il y a peut-être 60 ou 70% de la faune ou des animaux qui n'ont pas encore été découverts. Ça, c'est la création d'Allah qui est autour de nous. Et les gens qui se disent les plus intelligents, les scientifiques, etc., etc., les professeurs de sciences, ils n'ont toujours pas découvert. Alors, n'en parlons pas d'une création qui dépasse l'être humain, qui n'est pas accessible, le ciel. Parce qu'aucun être humain ne peut accéder au ciel. Même les djinns ne peuvent accéder au ciel, à l'exception de ceux qui peuvent y accéder par ordre d'Allah, comme d'autres versets le prouvent, pour écouter les conversations des malaïkas, pour pouvoir rapporter aux sorciers, aux devins, etc., etc., pour détourner les gens, éprouver les gens bien sûr d'abord, et détourner ensuite les gens du droit chemin. Mais sinon aucune créature n'accède au ciel. Nabi alayhi salatu wasalam a accédé au ciel parce qu'Allah ta'ala l'a invité. Parce que ce sont deux mondes qui ne communiquent pas. Le monde, les gens du dunya ne peuvent accéder au monde de l'au-delà, au monde de l'invisible. Donc le prophète alayhi salatu wasalam, lui, a accédé au ciel. Et vous vous rappelez certainement de l'histoire de l'Isra ou al-Mi'raj, comment l'accès au ciel est complexe. Il y a des checkpoints. Il faut un visa, il faut un sticker, il faut un pour entrer au ciel. Lorsque le prophète alayhi salatu wasalam est arrivé au ciel, et sur quel monture, c'est le Burak, c'était pas une fusée, hein. C'est pas Ariane, c'était pas Apollo que l'ange Jibril l'a porté, c'était créature d'Allah, Ajib, le Burak, animal exceptionnel qui permet à l'être, qui a permis au prophète Ali salatu wasalam de monter. Et scientifiquement, on dit qu'au-delà de, je sais pas moi, 1000 mètres, il n'y a plus d'oxygène, oui ou non? Mais le fait que notre prophète Ali salatu wasalam, ça c'est l'opinion de certains ulama de Sira, et ça peut être plausible, mais c'est pas là-dessus uniquement qu'on s'appuie, disent qu'une des faïdas, une des sagesses de l'opération de la poitrine, c'était de donner au prophète alayhi salatu wasalam la possibilité de s'adapter au monde de l'au-delà pendant l'instant du voyage nocturne, de voir des choses qu'un être humain, qu'un cerveau humain ne peut voir. Une fois, il y avait un récit qui dit que le prophète, je crois que le prophète Ibrahim, salam, si je ne me trompe pas, avait voulu voir l'ange Ibrahim, salam, l'ange Jibril, sous sa vraie forme, et lorsqu'il a vu une aile de Jibril, il s'est évanoui. C'est-à-dire que, je ne sais plus si c'est Ibrahim salam, ou Moussa, salam. Qui ça? Moussa, salam. Jazakallah. C'est Hazrat Moussa, salam. On va vérifier la source aussi, Inch'Allah. Ce qui prouve que l'être humain, le cerveau humain, les organes humains, un makhlouq, qui appartient au monde du dunya, du visible, ne peut pas voir quelque chose qui appartient au monde de l'invisible. Ce n'est pas pour rien si on dit également, on est en train de rentrer dans multiples parenthèses, lorsque le mu'min salih, l'homme pieux meurt, lorsqu'il voit l'ange de la mort devant lui, avec l'aspect de, avec autant de rahma, autant de bénédiction d'Allah hein, qui le couvre, lorsqu'il voit l'ange de la mort qui se présente à lui, avec autant de lumière, il dit que la vision, la simple vision de l'ange de la mort sur cet aspect est déjà une récompense pour lui. La vision de l'ange de la mort sur cet aspect est tellement magnifique que pour lui c'est déjà comme une récompense par rapport à sa vie dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et de même que la vision de l'ange de la mort pour le pécheur, pour le kafir, celui qui n'avait pas la foi dans son cœur, c'est déjà un azab de voir l'ange qui vient avec un ange effrayant pour prendre son âme et qui va hein, le frapper jusqu'à ce que son âme sorte, et dit que la vision, la simple vision de l'ange de la mort sous cet aspect hein, effrayant, c'est déjà un adab pour cette personne. Vous voyez donc, quand le monde du dunya rencontre le monde de l'au-delà, le monde de l'invisible, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être extraordinaire ou ça peut être quelque chose d'extrêmement effrayant. Donc, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, lui, a pu monter jusqu'au premier ciel. Selon certains savants, c'est parce qu'il a subi cette opération de la poitrine qui va lui permettre de voir ce qu'un être humain ne peut pas voir, d'entendre, de ressentir. Et puis, on pourrait dire certainement de passer d'un monde à l'autre et que son corps, subhanallah mubarak, supporte ce passage dans un autre monde. Et puis, tout est dans les mains d'Allah. Bien sûr, Allah a décidé qu'il arrive comme ça, sain et sauf. On va plutôt garder subhanallah, ce yaqin en la qudrat d'Allah. Allah a décidé qu'il arrive sain et sauf. Ça peut être l'opération de la poitrine, ça peut être tout simplement l'ordre d'Allah. Mais notre prophète, alayhi salatu wasalam, ce qu'on retiendra, c'est qu'arriver au ciel du dunya, le premier ciel, on n'entre pas dans le premier ciel comme ça. Il y a un ange qui a demandé à Jibril, alayhi salam, qui est-ce? Parce que quand ils ont cogné, il dit qui est-ce? Il dit que c'est Jibril. Il dit qui est avec toi? Il dit c'est Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Il a dit que, oh, qad bu'ith, est-ce qu'il a déjà été envoyé? Est-ce que sa mission a commencé? Il a dit oui. Et donc là, ils l'ont souhaité la bienvenue. Bienvenue au plus grand des prophètes. Et ainsi de suite, de ciel en ciel. Premier, deuxième, troisième, jusqu'au septième ciel. Donc le ciel, c'est une des plus grandes créations d'Allah Azza wa Jal, chose qui est insoupçonnée, inconcevable pour les scientifiques, pour les hommes de science qui n'ont pas, bien sûr, qui n'ont pas la foi. Est-ce qu'un jour ils vont découvrir l'existence du ciel, oui ou non? Il me semble que pour eux, le ciel, c'est le reflet, je ne sais pas, le reflet d'un truc physique par rapport à la mer, par rapport à ça, on voit un reflet, ce qui fait une couleur, Allahu a'lam, d'accord? Mais notre prophète, Allah Azza wa Jal, explique bien que le ciel est une création solide. Et ce ciel qui est aussi solide, qui est une des preuves encore plus fortes de la grandeur d'Allah, plus encore que la création de l'être humain, le jour de Qiyama, Allah Azza wa Jal ordonne à cette création solide de se fendre en deux, de se casser, de se fendre en deux, parce que ce sera là l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre création qu'on a dit tout à l'heure, et avant de parler de création, les mufassirs, ça c'est magnifique ça, quand ils insistent sur le mot « wa adhina bi rabbiha wa huqqat » et fera ce qu'il doit faire. Ils disent que « ay tastami' wa tuti' » le ciel écoute et obéit à Allah. « li anna alladhi amaraha huwa Allah » celui qui a ordonné au ciel de prendre cet aspect, c'est Allah, son créateur, Rabbuha wa Khaliquha Azza wa Jal, c'est son Seigneur, c'est son Dieu. Comme il obéissait à l'ordre de l'ordre de ce dunya, le jour des comptes, Allah lui ordonne, comme on a dit, d'adopter une autre posture, le jour des Qiyam. Et il dit qu'au début de la création également, Allah Azza wa Jal avait appelé le ciel et la terre. Thumma stawa ila sama. Et Allah s'est adressé au ciel, alors que à cette époque, au début de la création, le ciel était sous l'aspect de fumée. Et Allah a ordonné, Allah a ordonné au ciel et à la terre, venez tous deux bon gré, mal gré. Le ciel et la terre ont répondu à Allah Azza wa Jal que nous venons au Allah en t'obéissant. Donc nous fassions disent au début de la création de Suratul Fussilat, on explique quelle était la consistance du ciel avant. C'était comme une fumée et Allah Azza wa Jal les a appelés et le ciel a pris la forme qui est celle qui est maintenant. Et le jour de Qiyama, Allah ordonne au ciel maintenant de changer de forme et le ciel obéit à leur créateur, obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha al-ardu muddat, et que la terre sera nivelée. Là aussi les mufassirin rahimahumullah disent que la terre elle est kurratun mudawwara. La terre elle est plate, elle est ronde. La terre est ronde. D'accord? Elle est peut-être un petit peu étendue aux deux, on va dire extrémités, mais quand on parle d'un rond, aux deux pôles, elle est un peu plus étendue aux deux pôles. Et Allah Azza wa Jal ordonne à cette terre de tourner, de rester sous cette forme. Mais le jour des comptes, Allah Azza wa Jal ordonne à cette terre de prendre une autre forme. Et la terre va, wa idha al-ardu muddat, et que la terre sera nivelée. Et j'explique que la terre deviendra, c'est-à-dire plutôt que de garder cette forme ronde, la terre va s'aplatir. Allez, par image, on pourrait dire que comme quelqu'un qui fait un gâteau avec une pâte, il a une boule, d'accord? Il l'étale au, au maximum. Et Allah Azza wa Jal fait en sorte que le jour de Qiyama, toutes les personnes qui seront présentes, c'est-à-dire tout le monde, pas toutes les personnes, tout le monde, toute l'humanité sera présente sur une terre qui est la tara fiha iwajan wa la amta. Une terre qui est nivelée. Il n'y a pas d'endroit surélevé, il n'y a pas de falaise, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de crevasse. Et également, ce qui veut dire également que ce jour, il n'y aura aucun endroit où on peut s'abriter. Il n'y aura pas d'ombre, il n'y aura pas une montagne ou quelque chose de dit nivelé où on peut trouver un peu d'obscurité, un peu d'ombre dessous. Et Allah fera en sorte que toute créature se verra. Et l'homme pourra voir jusqu'à Mudd al-Basar. L'homme pourra voir jusqu'à l'horizon. Il dit que dans ce dunya, وَيُنْفِذُهُمُ الْبَصَرُ. Dans ce dunya, quelqu'un ne peut pas voir jusqu'à l'infini. À un moment donné, les yeux s'arrêtent. Vous regardez la mer, à un moment donné, vous ne voyez pas. Vous ne voyez plus. Alors que la mer ne s'arrête pas, vous voyez. La mer, elle continue. Parce que si on voyait, on aurait vu Maurice, on aurait vu Madagascar, on aurait vu... Bref, d'accord. Mais la vision humaine s'arrête. Vous regardez l'horizon, à un moment donné, vous ne voyez pas. Et peut-être que votre regard, vos yeux, il y a une portée de 2-3 km. À un moment donné, vous ne pouvez pas voir plus. Mais le jour des comptes, toutes les personnes se verront. Et ils seront tous donc sur une même terre, alignés au même endroit. Et le fait que les gens seront alignés aussi au même endroit, hein, cela pose un réel problème pour ceux qui essaient de comprendre la religion par le biais des sciences, par le biais des sciences physiques de ce dunya. Ce qu'on avait expliqué l'autre fois, hein, vous avez une surface plate, si je verse un verre d'eau sur cette moquette, bon là c'est une moquette, ça va absorber, mais si on verse un verre d'eau sur un carrelage ou autre chose, ben le liquide va s'étaler. C'est pas que quand je verse un verre d'eau, hein, la quantité d'eau reste comme ça. Non, ça c'est la loi physique, la pesanteur qui fait que ça s'étale. Et également qu'il n'y a pas un endroit qui est surélevé ou dénivelé. Mais le jour des comptes, Allah Azza wa Jal nous rappelle que les gens seront ressuscités et les gens vont souffrir en fonction de leur action, de leur a'mal. Et comment se manifestera cette souffrance? Parmi les étapes de la souffrance, la transpiration. Il y a des gens qui auront telle quantité de sueur qui arrivera au niveau de leur cheville, d'autres au niveau de leurs genoux, d'autres au niveau de leurs hanches, d'autres qui seront presque noyés de la transpiration. Alors qu'on vient de dire « وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ » et on vient de le réciter avec ce shahara, « لَا تَرَ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَ » il n'y a pas d'endroit nivelé, dénivelé, surélevé. Comment est-ce qu'une terre plate, il y a des gens qui sont côte à côte, et il y a des gens qui ont un niveau d'eau là, il y a des gens qui n'ont rien du tout, il y a des gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, et il n'y aura aucun problème. Mais ça, c'est la qudrat d'Allah. Les lois physiques, c'est les lois physiques du dunya. Les lois du akhirat, c'est autre chose. C'est les lois du dunya aussi, ce sont les lois d'Allah. C'est Allah qui a régi ce dunya, mais le jour des comptes, les lois d'Allah sont différentes. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'espace, et il n'y a plus de temps, et il n'y a plus ces choses que nous connaissons qui régissent le fonctionnement de ce dunya. Déjà, le fait de savoir qu'il n'y a plus de mort, c'est-à-dire que les cellules ne meurent plus. Et même quand les cellules meurent, elles renaissent immédiatement. Chose qui n'est pas possible de ce dunya. Il y a des cellules qui peuvent se régénérer, mais quand l'intégralité des cellules a été, qu'Allah nous protège, brûlée, carbonisée, qu'Allah protège quelqu'un qui a eu une brûlure, je ne sais pas qu'on appelle 3 ou 4e degré, c'est-à-dire le maximum des degrés, à un moment donné, la peau elle est complètement cramée, on ne peut plus rien faire. Il faut faire une greffe avec un autre morceau de peau et hein, qu'Allah protège, d'accord? Mais le jour des comptes est différent. Kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Le kafir, hein, le pécheur aura son corps carbonisé, brûlé, désintégré complètement, et quand ce sera désintégré, Allah Ta'ala fait en sorte que tout se régénère immédiatement. Chose qui n'est pas possible dans le dunya. Mais ce sont là les ordres d'Allah le jour des comptes. Le corps obéit d'une autre façon à Allah Azza wa Jal, contrairement à la manière dont il obéissait déjà à Allah dans ce dunya. Le ciel de ce dunya obéit à Allah dans sa consistance. Le jour des comptes, il a obéi à Allah déjà pour devenir comme il l'est au début de la création, de passer sous la forme de fumée jusqu'à cette forme actuelle. Et le jour des comptes, Allah leur donne de se fendre et ils se fendent. La terre garde cette forme par ordre d'Allah. Le jour des comptes, Allah Ta'ala donne à la terre de changer de forme, de devenir une terre plate, aplanie, une plaine gigantesque pour accueillir les gens. Lorsqu'Allah Ta'ala, le prophète dit le Coran, le hadith, يَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. Il y a des hadiths magnifiques comme ça, qui font en même temps peur, qui décrivent cette terre qui accueillera les gens, et lors de la résurrection, les personnes seront donc ressuscitées, les gens auront peur. Dans d'autres versets, il écrit que en ce jour, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas d'étoiles. Ça, c'est la première étape de la résurrection, ce qui fait que lorsque les gens seront ressuscités, ce sera dans l'obscurité totale. Et les gens auront peur, ils seront angoissés, et ils entendront un appel. L'appel qui va les amener vers la terre des comptes. Et là, dans le verset, il dit que, ya Allah, si le verset nous revient, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. يومئذ يتبعون الداعية يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزة. Que les gens, ils vont entendre l'appel pour qu'ils se dirigent vers la terre des comptes, et les gens vont y aller. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. Ils vont y aller sans, entre guillemets, discuter, sans chercher pourquoi, parce que les gens sont angoissés, ils obéissent à l'ordre, et la seule chose qu'on entendra, ce sera le bruit des pas des personnes qui se dirigent vers la terre des comptes, la terre pour rendre les comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah décrit la situation de la terre le jour des comptes, Allah azza wa jalla rappelle la même chose qu'il a rappelé pour les ciels, pour les cieux, la même chose, le verset, subhanallah. وإذا الأرض مدت. Ensuite Allah va citer une autre qualité de la terre, ce qu'elle va faire, et enfin Allah conclut par وأذنت لربها وحقت, et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Exactement ce qu'Allah Ta'ala veut dire à propos du ciel, et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire. Donc la terre prend cette apparence. La deuxième chose qu'Allah Azza wa Jal ordonnera à la terre de faire, contrairement à ce qu'elle faisait de ce dunya, c'est de rejeter les cadavres, rejeter les morts. Alors que de ce dunya, Allah ordonne à la terre de contenir en son sein intérieurement les corps de chaque personne. Et Allah ordonne à la terre parfois de manger le corps des personnes. Et pour certaines personnes, Allah ordonne à la terre de ne pas toucher leur corps. Les anbiya, alayhim salatu wa salam, les prophètes, leur corps n'est pas mangé par la terre. Également les gens pieux, les gens qui étaient proches d'Allah, qui avaient la piété de leur cœur, Allah ordonne également à la terre de ne pas consommer, de ne pas manger leur corps. Il y a pas mal de récits, que ce soit dans le Baqi, à Madina, à Munawwara, ou même ici à La Réunion, parfois, on déterre, on essaie de travailler un peu les caveaux familiaux pour en mettre quelqu'un, et quand les personnes ils déterrent, ils voient un corps qui a été, subhanallah, enterré depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, le corps est intact, donc là ils rebouchent immédiatement. Ils rebouchent immédiatement, ils savent que là il ne faut pas enlever, il ne faut rien mettre, parce que c'est quelqu'un qui est toujours présent, son corps est toujours présent. C'est des récits, ça, c'est des choses réelles, subhanallah, ce sont des gens pieux qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ordonne à la terre donc de ne pas toucher le corps des personnes qu'il aime, et en priorité bien sûr les anbiya alayhim salatu wa salam. Mais le jour de Qiyamah, on va terminer avec cette description, le jour de Qiyamah, Allah azza wa jalla ordonne à la terre de faire ressurgir tous les cadavres qu'elle a contenus depuis la mort du premier homme jusqu'à la mort du dernier homme. C'est le verset وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, c'est-à-dire les morts, et se videra. Donc le jour des comptes, la terre va libérer tous les corps, et les corps, et puis ça c'est d'autres étapes de l'au-delà, à travers d'autres versets, les corps vont recevoir l'âme, l'âme va retourner dans les corps, et les corps vont se reconstituer, et l'être humain va se réveiller. Dans cette hadith, il décrit même que la personne se lève, secoue la terre de sa tête, et il regarde. Là il voit quoi ? Il voit le mahshar, il voit l'au-delà, il voit des gens réunis, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, et les gens seront angoissés, seront affolés, à l'exception de ceux qui ont la foi de leur cœur, parce qu'eux ils sont apaisés. Pourquoi ils sont apaisés ? Parce qu'ils ont déjà connu l'état de grâce, l'état de bonheur, lorsqu'ils ont vu qui ? Malik al-Maut. Et lorsqu'ils étaient dans le monde de Barzakh, le monde dans la tombe, lorsqu'ils ont vu les anges leur posaient des questions, lui posaient des questions, et qu'il a pu répondre correctement, et qu'il a reçu la bonne nouvelle du paradis, et qu'il a vu une porte du Jannah ouverte pour lui, avec le parfum du paradis qui vient, cette personne repose en paix, réellement. Il y a des gens, quand ils meurent, on dit rest in peace, hein, rest in peace, rest in hell plutôt. Si quelqu'un n'est pas la foi, c'est pas reste en paix, c'est reste en enfer. Parce que de le qabr déjà, c'est un trou de l'enfer pour celui qui n'avait pas la foi, alors que pour le mu'min, c'est un jardin du paradis. Que notre tombe, Inch'Allah, soit un jour un jardin du paradis. Donc celui qui a vécu, qui est resté dans la terre, subhanallah, avec les bienfaits du paradis, lorsqu'il sera ressuscité, Inch'Allah, il aura le cœur apaisé, parce qu'il sait que quand ces étapes-là se sont bien passées, ça annonce de bonnes nouvelles pour les étapes suivantes. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Donc, wa alqat ma fiha wa takhallat. Et on terminera avec une citation. Une citation, un hadith de Aïcha radiallahu anha. Parce qu'en commentaire, Mufassir explique que wa alqat ma fiha wa takhallat, la personne est ressuscitée. Quand on est enterré avec quel vêtement? Un kafan. D'accord? Combien de pièces de tissu? Mohamed, pour un monsieur, combien? Deux ou trois? Trois, non? Trois pièces, si je ne me trompe pas. Et pour une dame? Trois. Pour une dame? Cinq. D'accord? Et subhanallah, certains revoient un petit peu les règles de jurisprudence sur le kafan avec les élèves de la madrasa. Je vous assure que ces masnas donnent frisson. Quand vous lisez ça, vous dites que subhanallah, les règles de jurisprudence concernant la manière de laver un corps, je ne sais pas si quelqu'un a eu l'occasion de le faire. Moi, on m'a déjà proposé, je ne pourrais pas faire, pas le courage de le faire, subhanallah. Et quand on voit un peu, on voit un petit peu la manière dont on lave le corps, comment on est à la merci des gens. Quelqu'un, il est mort, mais il a une certaine présence, il connaît, il entend un petit peu. C'est pas qu'il entend, mais la personne le ressent, les choses, mais il est totalement impuissant. Il y a des gens qui le prennent, qui le lavent, qui passent du savon, le camphre et tout, et puis on le met sur... On étend la grande pièce de tissu qu'on appelle le lifafa, on pose les autres pièces de tissu, puis on l'enroule, la première pièce, et puis le deuxième, et puis le troisième. Puis on dit qu'à l'extrémité, on attache avec des bandelettes. Je dis, subhanallah, la personne subit tout ça. Et il n'y a pas une personne parmi nous qui ne va pas passer par cette étape. Il n'y a pas une personne de cette assemblée, bon, après non, tout le monde, qui va échapper à cette étape. Il n'y a pas de passe-droit, qui lui monte direct au ciel. Il ne connaît pas la mort ni la tombe, il monte direct au ciel et puis il ne rentre pas là. Wallah. Chaque personne va passer par cette étape. On explique comment on prend le corps, comment on va l'enterrer, subhanallah. Hein, c'est des choses qui nous remettent un peu en question. Hein, subhanallah. Ça nous fait comprendre que il n'y a aucune solution. La mafar. Chaque être humain, mu'min, fasiq, quel que soit le niveau de iman, pratiquant, peu pratiquant, pêcheur endurci, on va tous passer par cette étape. Voir des gens vous prendre, vous laver, vous mettre dans des pièces de tissu. Il y avait une histoire d'un roi des Banu Umayyad, si je ne me trompe pas, ou des Abbasides, plutôt des Banu Umayyad. Il disait que un roi, donc quelqu'un descendant des grands rois, il disait qu'au moment de mourir, il a demandé à ses serviteurs ou à sa famille, je ne me rappelle plus, si je ne me trompe pas, c'est un tafsir de Al-Kabir, d'Al-Fakhr Razi. Il a dit, montrez-moi dans quoi vous allez me mettre quand je vais mourir. Et on a amené trois pièces de tissu. Il a regardé, il a dit, subhanallah, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai possédé, tout ce que j'ai fait de ce dunya, vous allez me mettre dedans trois pièces de tissu blanc. Trois morceaux de tissu. Il a dit, oh dunya, inna kala maghrour, tu es vraiment un monde trompeur. Tout ce qu'on monte, on bâtit, on projette, on essaie d'avancer, de faire fructifier. Et en finalité, c'est rien que ça. Trois pièces de tissu, rien d'autre. Trois pièces de tissu et directement dans la terre. Si on est un peu gentil, on met une petite planche dessus pour que la terre ne tombe pas trop sur vous. Voilà, c'est tout. Et rien d'autre. Allah mustahan. Donc, en commentaire, dit que la personne est ressuscitée. Mais quand on est ressuscité, est-ce qu'il y a encore le kafan? Non, le kafan est mangé par la terre en quelques, je sais pas, en jours, en quelques semaines, en quelques mois. Lorsque la personne est ressuscitée, c'est nu, sans vêtements, sans chaussures et pour les hommes, non circoncis. Pourquoi non circoncis? Parce qu'on est ressuscité de la même façon qu'on est venu sur ce dunya. Quand notre maman nous a donné naissance, bi'idhnillah, comment on était? La personne est ressuscitée exactement de la même façon. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait cité ce hadith, avait expliqué aux sahaba comment est-ce que les êtres humains seront ressuscités, Aisha radiallahu anha a dit, Ya Rasulallah, ar-rijal wa nisa'u jami'a yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ô prophète d'Allah, les hommes et les femmes seront ressuscités ensemble, côte à côte, de la sorte, de la façon que tu as décrit, sans vêtements, et les gens pourront se voir mutuellement. Les ulama disent, regardez la pudeur, la haya de Aïcha radiallahu anha. Elle se fait du souci pour ce haya, sa pudeur de ce dunia, mais elle a peur de l'au-delà. Ma pudeur alors, si quelqu'un me voit, voit mon corps, comment est-ce possible? Alors que de ce dunia, Allah musta'an, les femmes de ce dunia, si la loi n'était pas là pour les empêcher de marcher nus, les gens marcheraient nus, certains marcheraient nus, certaines. S'il y en a qui ne marchent pas nus dans la rue, c'est parce que la loi l'en empêche, les en empêche. C'est-à-dire que la pudeur, le haya, ça fait partie de la foi. Quand on voit des gens qui n'ont pas de haya, c'est qu'il n'y a pas iman, il n'y a rien. Allah musta'an. Parfois même, Allah musta'an, de notre communauté, hein, il y a, quand on voit des jeunes filles et tout, comment elles s'habillent, la ilaha illallah. Allah seul sait ce qu'il y a dans les cœurs, Allah musta'an. Et donc, Aïcha, radiallahu anha, elle se fait déjà du souci pour l'au-delà. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, rassure son épouse, Ya Aïcha, al-amru ashaddu. Min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Ô Aïcha, sache que le jour des comptes, la situation sera tellement angoissante que personne ne pensera à regarder son prochain. Et cette explication, le prophète alayhi salatu wa salam rejoint le hadith, le verset lorsque Allah Ta'ala dit li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, la surah Abasa wa Tawalla, chaque personne en ce jour aura quelque chose qui va le préoccuper. Et c'est quoi la chose qui préoccupe les gens? Ben maintenant on est ressuscité. On est en train de vivre les étapes de l'au-delà. Comment va se passer les différentes étapes? Avec qui je suis ressuscité? Avec qui Allah me met? Sous l'ombre de son trône? Ou alors avec Qarun, Haman, Pharaon, avec les gens de mal? Comment est-ce que mon livret de compte me sera remis? Comment est-ce que je vais passer devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que je vais traverser le sirat? Et avant ça, comment est-ce que je serai devant le mizan, la balance pour mes actions? Ça, ce sera la préoccupation des gens, sera telle préoccupation que les gens, une personne, un homme, aura à côté de lui peut-être sa femme. Il a perdu sa femme après 70 ans de vie commune. Il aura auprès de lui sa maman, son papa, hein, qu'il aimait tant, qu'il a perdu lorsqu'il avait 30 ans, 40 ans. Il a pleuré des années pour la paix de ses parents, mais la personne ne pensera même pas à parler, à demander des nouvelles. Je suis content de te voir. Enfin, on est réunis. Non, les pas réunis, les donne, comme ça dit une expression, lui donne problème là. Tout le monde lui donne problème. Chaque personne, en ce jour, il y aura quelque chose qui le préoccupera. Donc, par exemple, dit Aïcha, même si les gens n'ont pas le vêtement, mais personne ne regardera son prochain, chaque être humain sera angoissé par ce qui va arriver, les étapes qui vont arriver après ça. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et puis la prochaine fois, on va voir le verset Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Allah Azza wa Jal rappelle le retour vers lui. Comme le verset qu'on avait cité, hein, de Suratul Buruj et d'autres versets qui parlent de la création. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Et qu'en finalité, tout le monde retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de nous permettre de réaliser que si le ciel, qui est une créature énorme, gigantesque, obéit à Allah Azza wa Jal, la terre, subhanallah, hein, même si par rapport au dunya, la terre n'est pas grand chose, mais comment la terre reste et obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et le jour des comptes obéira à Allah, le ciel obéira à Allah subhanahu wa ta'ala, nous, êtres humains, aussi petits qu'on est, nous devons également d'être obéissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et inshallah, donc la semaine prochaine, on fera pas tafsir. Dans deux semaines, on fera Inch'Allah. La semaine prochaine, hein, pour ceux qui ont participé donc au concours Hajj, hein, vous avez vu l'affiche qu'on a fait mettre. Inch'Allah, la semaine prochaine, il y aura la cérémonie, hein, pour la remise des prix à la mairie de Saint-Denis. Hein, pour les personnes, bien sûr, qui ont pris part à ce concours. Et avec le tirage au sort, on va annoncer le nom des trois gagnants, les trois personnes qui auront cet honneur, cette chance d'aller au Hajj dans un mois, hein, auprès de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites passer le message aux personnes qui ont participé, hommes et dames. Il y aura à peu près 500 chaises, hein. On ne pourra pas accueillir plus de 500 personnes. Donc on essaie de venir immédiatement après le salat al-Isha pour avoir une place assise, les personnes qui ont donc participé. Petit rappel également, on est le 14 Shawwal aujourd'hui, ou le 13 Shawwal à peu près, d'accord. N'oubliez pas, il reste, si on est le 13, ce qui veut dire qu'il nous reste 17 jours ou 16 jours pour compléter le mois de Shawwal. Et il ne faut pas que le mois de Shawwal passe sans qu'on ait jeûné 6 jours. Donc, Valaïsra dit que celui qui fait le Ramadan, et qui ensuite jeûne 6 jours du mois de Shawwal, Allah Ta'ala lui accorde la récompense de Ad-Dahr, qui est comme si il a jeûné toute l'année. Donc on essaie de profiter de ce moment, de ce cadeau encore qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde, on essaie de jeûner 6 jours. Et encore une fois, on répète, si quelqu'un les jeûne de manière consécutive, bien. Si quelqu'un les sépare tous les semaines et fait 2 jeûnes, c'est également correct. Il faut jeûner 6 jours nafil durant le mois de Shawwal. Qu'Allah nous accepte le tawfiq de le faire. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah. Jazakumullah khair.